Clé des Andes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Et on commence avec quelques infos complémentaires. Et toi, Léa, salut.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Mediapart vient de révéler de nouvelles informations dans l'affaire Nicolas Sarkozy concernant le financement illégal de sa campagne avec des fonds libyens.
Selon ces informations, BFM TV s'est mis à la disposition de l'ancien chef de l'État. Le 16 octobre 2020, dans un texto envoyé par la journaliste Ruth Elkrief à Véronique Ouaché, la chargée de communication de Nicolas Sarkozy, elle écrit « Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut montrer ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets nos amitiés à Nicolas Sarkozy. » Mediapart résume l'ensemble de ces discussions, les qualifiant d'incroyable mobilisation de responsables et figures de la chaîne d'information en soutien de Nicolas Sarkozy au moment de la fausse rétractation de Ziad Takledine. Après publication de l'enquête, les journalistes de la chaîne BFM TV ont adressé un courrier à leur direction, interpellant directement Marc-Olivier Fogiel, journaliste mis en cause, pour lui demander des comptes.
En cas de canicule, le secteur du BTP passe au chômage technique.
Un décret vient d'être publié le 28 juin au Journal officiel. La canicule est enfin reconnue comme motif de chômage technique dans le secteur, au même titre que la neige, le gel et les vents exceptionnels. Lorsqu'une alerte de vigilance canicule est annoncée orange ou rouge, le travail devra cesser et les salariés seront indemnisés à partir du deuxième jour, avec, selon le secrétaire général de la CFDT, Patrick Blanchard, quasiment un maintien de salaire. Une victoire pour les syndicats qui ont porté cette lutte, que la CFDT qualifie d'avancée majeure pour la santé et la vie des travailleurs du BTP, temporisant tout de même en disant qu'il s'agit seulement d'une première étape.
À l'université Bordeaux-Montaigne, maintenant des nouvelles dans l'affaire de la plainte pour viol concernant l'ancien vice-président.
Accusé par Barbara Stiegler, professeure de philosophie, l'ancien vice-président vient d'être placé en examen pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Après une première plainte classée sans suite, comme c'est le cas dans 86% des affaires, le dossier a été rouvert par la justice. L'accusé a été placé sous contrôle judiciaire par une juge d'instruction avec interdiction d'entrer en contact avec la plaignante, selon des informations Sud-Ouest. D'autres étudiantes ont également accusé ce même professeur de comportement problématique. Plusieurs affaires de violences sexistes et sexuelles ont éclaté à l'université Bordeaux-Montaigne durant cette année, dont la gestion interne de la part de la présidence a été vivement critiquée, donnant lieu à de nombreuses mobilisations et déblocages de l'université. Des mobilisations qui ont notamment permis certaines victoires concernant la gestion interne des violences sexistes et sexuelles à l'université.
Le planning familial de la Gironde mène, lui, le bras de fer avec l'Agence régionale de la santé pour conserver ses financements.
80 000 euros accordés sur les 160 000 demandés à l'ARS, c'était la douche froide en début de semaine pour le planning familial qui se voyait dans l'obligation de licencier 2 postes à temps plein sur les 7,5 nécessaires au fonctionnement de la structure. Cette coupure de budget serait due à la nouvelle stratégie de financement de l'ARS qui demande des actions de prévention, je cite, probantes, c'est-à-dire qui peuvent être mesurées, dont l'impact sont déjà validées par Santé publique France et qui bénéficient à une large partie de la population. Le planning familial dénonce une décision qui a des impacts directs et dramatiques sur nos activités, nos publics, nos méthodes et nos valeurs. Hier, des négociations ont eu lieu entre l'ARS et le planning familial de la Gironde. 34 000 euros supplémentaires ont été débloqués à titre provisoire. En contrepartie, l'association doit, je cite, « s'inscrire dans l'amélioration et l'évaluation de ses programmes d'intervention en milieu scolaire ». Le planning familial s'annonce soulagé, mais attentif au reste des négociations, car il reste de l'argent à trouver. Une mobilisation de soutien devant l'ARS est prévue demain midi au 103 bis rue de Belleville à Bordeaux.
Et puis on termine avec Stop aux méga-bassines, une nouvelle mobilisation la semaine prochaine dans le Marais Poitevin.
Des convois de l'eau partent à vélo de différentes régions de France. À Bordeaux, départ samedi d'un convoi organisé par ANV COP21 pour aller jusqu'à Melle. Et toute la semaine prochaine, du mardi au dimanche, un village de l'eau à Mel avec des débats, des formations, des ateliers et des fêtes. Et puis deux manifestations qui auront lieu vendredi 19 dans la Vienne à Saint-Sauvent contre des projets de bassines dans le département. Et samedi 20 à La Rochelle, bloquons les méga-bassines à la source au terminal agro-industriel portuaire de la Palisse où sont exportées notamment les céréales produites à grand renfort d'irrigation dans la région. Et plus d'informations sur bassinesnonmerci.fr. Notre camarade Rémi Filton nous enverra des cartes postales sonores depuis le convoi de l'eau et le village de l'eau. Ce sera écouté chaque jour à partir de dimanche à 8h30, 12h30 et 18h30 sur la clé des ondes.
Merci beaucoup à toi Léa. 12h15 sur la clé des ondes, c'est le plat de résistance. Alors on sort à peine de cette folle séquence politique et médiatique avec élections européennes puis législatives. Mais on voulait quand même terminer notre saison du plat de résistance en abordant cette question du rôle des médias dans tout cela. Parce que la tonalité de cette séquence, ça a été la banalisation de l'extrême droite d'un côté, la diabolisation du nouveau Front populaire de l'autre, et au milieu, une grande pauvreté dans le débat d'idées, allant même jusqu'à faire disparaître la question écologique des radars. Alors, on va revenir sur tout ça avec nos deux invités. Aujourd'hui, l'un est en studio, c'est Simon Barthélémy. Salut Simon.
Bonjour.
Tu es rédacteur en chef de Rue 89 Bordeaux, site d'info local indépendant qui vient de fêter d'ailleurs ses 10 ans en début d'année. Et tu es aussi coprésident du Club de la Presse de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. On peut d'ailleurs lire sur le site du Club de la Presse un billet que tu as écrit, l'extrême droite et les médias, une nécessaire autocritique, s'il n'est pas trop tard, entre parenthèses. Et bon, il n'est jamais trop tard, on va le faire nous aussi ce midi. Et puis par téléphone, on est avec Mathias Raymond. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en sciences économiques et co-animateur du site acrimed.org. Peut-être tu peux rappeler en trois mots ce que c'est Acrimed.
Oui, Acrimed, c'est une association qui date de 1996 et qui est constituée d'universitaires, de chercheurs, mais aussi de journalistes ou simplement de militants, et qui observe les médias, fait de la critique des médias et puis aussi fait des propositions en termes de transformation des médias via principalement un site acrimed.org, mais aussi des publications, livres ou revues. Voilà.
Super, ben on viendra peut-être aussi sur cet aspect-là de ce que vous proposez pour changer ce modèle-là. Peut-être on va commencer par revenir sur quels ont été les ressorts de cette omniprésence de l'extrême droite dans les médias ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être aussi. Alors omniprésence qui a été un sentiment, je pense, ressenti par beaucoup de personnes, mais qui a aussi été objectivé. Simon, dans le billet dont je parlais que tu as fait, tu relèves le décompte des mentions des différents candidats qui a été fait par une plateforme, la plateforme TagD, qui cite donc 17 309 mentions de Jordan Bardella en mai 2024, loin devant Raphaël Glucksmann à 11 832 mentions, puis quatre autres candidats dans l'ordre, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Valérie Ayer et Marie Toussaint, entre 5 300 et 5 800, Emmanuel Aubry encore en dessous avec 4 000, et la conclusion que tu interroges, c'est que les médias publics et privés ont quasiment réussi à imposer dans l'ordre les résultats des élections. Ça compte ce truc-là de mention, ça impose en fait un paysage politique dans les médias, Simon ?
Oui, alors enfin, la conclusion sur le tiercé, c'était celle du site qui avait fait cette recension, donc le contre-attaque, que je partageais justement pas tout à fait, puisque c'était pas le tiercé exact, puisqu'on voyait par exemple que Valérie Ayer, qui arrivait très loin derrière, enfin qui avait moitié moins de mentions dans les médias que Raphaël Glucksmann à l'arrivée, est juste derrière lui, ou que inversement,
Manon Aubry
de la France Insoumise était un peu mieux placé que si on s'était référé juste à un décalque. Mais ce qui est évident, c'est que on voit depuis quelques mois, quelques années, la stratégie de banalisation de l'extrême droite et du Rassemblement National de se présenter vraiment comme un parti comme les autres fonctionne à plein régime, avec pas mal de ressorts qu'on va développer dans cette émission, mais notamment sur les derniers mois de ce qu'on a pu voir. Il y avait une par exemple une émission d'arrêt sur image là-dessus, sur rebondissant sur une émission de Télématin qui avait suivi Jordan Bardella et qui avait fourché complètement sur un jeu de mots de Libération, qui justement parlant de ce sujet de la relation de Bardella aux médias, avait titré « Comme un poison dans l'eau » et Télématin s'était planté, avait dit « Repris comme un poisson dans l'eau » sans relever le jeu de mots. Et Arrêt sur image avait montré derrière plusieurs reportages du service public, notamment suivant la campagne de la tête de liste du RN aux européennes où il était présenté comme une rockstar, voilà, force selfie, et voilà, une image un peu complètement dépolitisée, où il n'était pas du tout question de programme, pas question de ce que compte faire exactement l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Mmh. Et voilà, qui est validé, alors jusqu'à quel point, par les rédactions en chef des différents médias. Est-ce que c'est la volonté de la course à l'audimat? Est-ce qu'il y a derrière des ressorts plus politiques? Alors les ressorts politiques qui sont évidents dans le groupe Bolloré, où il y a vraiment une machine de guerre idéologique qui est en marche et qui infuse sur les autres, puisque comme ils obtiennent des résultats... Mais des très bonnes audiences, il y a cette idée de il faut faire comme eux, il faut aussi donner plus de place à des éditorialistes ou carrément à des figures politiques d'extrême droite. Donc il y a une course à l'échalote comme ça qui est assez dévastatrice, puisqu'on sait aujourd'hui que la télévision, faut pas se focaliser sur la télévision, mais ça reste la première source d'information d'une grande partie de la population, et en particulier chez les personnes âgées qui sont celles qui votent le plus.
On reviendra peut-être sur les raisons de qu'est-ce qui pousse les médias, les rédactions à aller là-dedans, mais pour revenir à comment on objective ce sentiment d'omniprésence de l'extrême droite qu'on a pu avoir, de vagues d'extrême droite dans les médias de ces derniers mois. Mathias Raymond, qu'est-ce que vous, à Acrimène, vous avez pu observer par quoi ça passe et comment ça se met en place, cette présence de l'extrême droite dans les médias?
Alors, ça fait quand même pas mal d'années qu'on observe le rapport que les médias entretiennent avec l'extrême droite, et il y a plusieurs ressorts qui contribuent, si on veut dire ça comme ça, à la dédiabolisation de l'extrême droite par les médias. Parmi ces ressorts, il y a évidemment ce qui nous semble l'un des plus importants, c'est la dépolitisation de la politique par les médias. Alors, c'est une coproduction, c'est pas que les médias qui contribuent à dépolitiser la politique. Les acteurs politiques, les personnages politiques, les partis politiques contribuent eux aussi à cette forme de dépolitisation, cette pipolisation de la politique, cette spectacularisation de la politique.
Ça veut dire on parle moins des sujets, moins des idées, moins du fond, et plus de la tête des gens, de leur personnalité.
Voilà, disons que la forme prime sur le fond, le commentaire sur l'analyse, etc. Et on le voit d'ailleurs, les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes d'information en continu, ne sont pas des chaînes d'information en continu, en réalité c'est des chaînes de discussion en continu, où on a vraiment privilégié le commentaire plus que l'analyse, la forme plus que le fond. Donc il y a ce premier ingrédient, puis il y a d'autres ingrédients aussi sur la mise en avant de sujets, de thèmes portés par l'extrême droite. Les thèmes sur la sécurité, sur l'immigration notamment, sont des thèmes qui sont mis en avant par les médias, mais qui sont aussi les thématiques privilégiées de l'extrême droite. Alors, pourquoi ces thèmes-là sont banalisés d'une certaine façon dans les médias? Ça, c'est lié à une forme de facilité, c'est des sujets assez simples à aborder de manière superficielle, et puis c'est spectaculaire aussi, de la violence, de la filmer, de la mettre en avant, etc. Donc, l'insécurité, et aussi le lien qui est fait avec l'immigration, voire même avec l'islam par l'extrême droite, sont finalement mises en lumière par les médias. Et puis aussi, pour compléter ce qui était dit tout à l'heure, Il y a en effet le nombre d'invitations, le nombre de mentions de Jordan Bardella, notamment dans la dernière campagne aux européennes, qui était très, très présent. Mais au-delà de ça, ce qu'on a constaté, nous, à Acrimed, c'est que même absent, l'extrême droite est présente. Même quand elle est absente, l'extrême droite est présente. Et on se rappelle très bien de la candidature d'Éric Zemmour. Avant même qu'il soit candidat, en septembre 2021, il était déjà omniprésent dans les médias. Les thèmes qu'il portait étaient omniprésents dans les médias. Et quand il n'était pas invité dans les émissions, on interrogeait les autres personnalités politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur ce que pensait Éric Zemmour, sur le point de vue d'Éric Zemmour, alors qu'il avait zéro député à l'Assemblée nationale, qu'il représentait en termes politiques rien, qu'il n'était présent que parce que les médias avaient décidé qu'il soit présent. On n'interrogeait pas, par exemple, Darmanin ou Michel Barnier sur les points de vue portés par Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Non, on les interrogeait sur ce que disait Zemmour dans une autre émission ou dans une autre interview qu'il avait pu faire au préalable.
Peut-être on va se demander pourquoi ça marche comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette attraction et que tout tourne autour de ces personnalités-là? Simon, tu voulais réagir de Rue 89 Bordeaux?
Oui, pour compléter, c'est vrai qu'il y a eu un article de Libération là, ces derniers jours sur, qui s'est penché sur le temps d'antenne donné par les chaînes aux différentes forces. Est-ce qu'elles avaient respecté les équilibres puisqu'elles sont tenues théoriquement en période de campagne électorale à un temps équivalent. Ils se sont intéressés à ce qu'avaient fait les chaînes de Bolloré, donc CNews, la chaîne d'info en continu, C8. Et la grande nouveauté à laquelle on assiste depuis quelques temps, c'est cette présence d'éditorialistes ou qui ont l'étiquette entre guillemets journaliste, qui fait que si ces temps de parole donnés donc à des élus, enfin aux des élus ou des candidats des différentes forces étaient relativement respecté. En revanche, derrière, donc, il y avait des reprises de commentaires, des paroles par j'ose pas les qualifier de journalistes, mais parce que bon, c'est des chroniqueurs de Valeurs Actuelles ou de médias comme cela, qui prennent du temps de parole en fait qui prennent pas du temps de parole justement, c'est
qui disent la même chose, qui devraient être comptés sur le même ligne de temps de parole mais qui le sont pas.
Voilà, exactement, et c'est un reproche qui a été fait par l'ARCOM, donc l'autorité de régulation à CNews, de veiller justement à davantage de pluralisme et pas avec des amendes à la clé sur des propos racistes ou climato-sceptiques qui étaient pas contrebalancés ensuite en plateau sur. Voilà, donc c'est y a cette question-là du pluralisme théorique et puis celle de cette idéologie qui dépasse très largement le cadre juste de la parole publique.
Mathias Raymond, il y a une vidéo que vous avez publiée à Acrimed avec Blast qui est titrée Les médias complices et coupables. Comment elle s'est installée? Comment elle fonctionne cette complicité? Est-ce que c'est une complicité idéologique? Est-ce que c'est une complicité qui est liée à des intérêts économiques, de rentabilité, de course à l'audience, de course à l'échelle, comme disait Simon tout à l'heure? Comment tu analyses ça? Comment vous analysez ça? Comment ça fonctionne, Mathias Raymond?
Alors, c'est une complicité tacite. Enfin, c'est évidemment, si on met de côté les médias qui appartiennent à Vincent Bolloré, qui sont des médias de propagande au service de l'extrême droite, et en particulier CNews, ou même plus récemment les journaux qu'il a pu racheter, on ne peut pas dire que l'ensemble des médias soient des médias complices objectivement des thèses d'extrême droite. Surtout quand l'extrême droite arrive au second tour et qu'on se rend compte que ces médias-là vont plutôt, pour certains, s'incliner vers un front républicain ou soutenir de manière discrète parfois un front républicain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense vraiment que ces médias-là, par facilité, par manque de moyens, très souvent, ont tendance à relayer des informations. À faire ce qu'on appelle aussi, par exemple, du journalisme de préfecture, c'est-à-dire relayer les informations de la préfecture dès qu'il s'agit de violence, d'insécurité, etc. Et donc, de jouer le jeu de l'extrême droite, de jouer de façonner, si vous voulez, les fondations de ces mouvements d'extrême droite en accompagnant les thèses qu'ils peuvent défendre et en mettant, et c'est ça le vrai pouvoir des médias, hein, en mettant à l'agenda ces sujets-là. On l'a vu récemment avec la campagne des européennes. Dès qu'on essaye de sortir de ces sujets, il y a une forme, et je pense qu'on va bientôt en parler, de diabolisation de ceux qui veulent aborder d'autres sujets, qui veulent décaler l'ordre de l'agenda, qui veulent transformer cet ordre d'agenda en disant mais non, mais le sujet principal, c'est pas forcément la sécurité ou l'immigration, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est les inégalités, etc. Là, il y a aussi une opposition qui apparaît dans les médias dès lors que l'agenda est déstabilisé.
Et effectivement, on a vu en parallèle une décrédibilisation de la gauche. Vous titriez chez Acrimed « Les médias en guerre contre le nouveau Front populaire » dans des proportions qui semblaient assez délirantes parfois quand on ouvrait le journal et qu'on voyait ce qui pouvait être dit. Simon Barthélémy, une réaction ?
Oui, juste pour compléter sur le point précédent, indépendamment du nouveau Front populaire et de son traitement, sur les facteurs là, qui sont en jeu. Donc, je parlais de course à l'audience, on l'a vu par exemple avec BFM TV, qui était la première chaîne d'info et qui commence à être régulièrement distancée par Médiamétrie, dans les chiffres de Médiamétrie par CNews, et qui, après les européennes, a demandé à sa rédaction d'inviter davantage de chroniqueurs et d'éditorialistes de l'extrême droite piqués à CNews avec l'argument qu'il fallait parler à tout le monde et que voilà, avec 30-35% du pays extrême droite, il fallait aller dans le sens du poil et flatter cet électorat-là. Donc il y a cette pseudo volonté d'équilibre des paroles. Et puis ça c'est pour ce qui concerne BFM ou peut-être d'autres médias qui pourraient être tentés par ça. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forme de tétanisation d'autres médias. Je pense notamment à ce qu'on a pu lire sur ce qui se passe en interne à France Inter ou d'autres médias du service public qui est attaqué justement par CNews ou d'autres médias d'extrême droite depuis des années où ils sont présentés comme un média des médias gauchistes qui donnent qui sont vraiment des gros gros vilains et la peur donc de la direction de ces stations de service public d'apparaître comme des médias de combat, c'est le terme qui a été prêté aux responsables de la rédaction de France Inter sur le fait que sur le traitement de l'extrême droite aujourd'hui, comment faire, c'était pendant la campagne des législatives, comment faire pour en parler sans avoir l'air de trop d'être trop critique. Donc heureusement, ce qu'on voit, c'est que ça soulève beaucoup de débats en interne et que les journalistes, qu'ils soient dans les sociétés de journalistes indépendants ou des syndicats commencent à se révolter contre ça.
Effectivement, Mathias Raymond, vous avez aussi fait le décompte sur Acrimed des rédactions qui se sont mobilisées, des sociétés de journalistes souvent, ou des syndicats qui ont pris des positions, critiqué la manière dont leur rédaction en chef prenait des positions dans des éditos, notamment pendant la campagne des législatives, notamment. À quelles conditions est-ce que ça marche, enfin, quel rôle ça a ? Est-ce que ça ne permet que de dire les rédactions ne sont pas monolithiques, il y a des gens qui essayent de s'obliger de casser un peu ces fonctionnements-là ? Est-ce que ça permet d'avoir des résultats ou est-ce qu'il y a une telle verticalité dans beaucoup de ces rédactions que les petites batailles internes des journalistes ne payent pas vraiment ? Mathias Raymond ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Les batailles internes, comme vous dites, elles ne payent pas souvent. Alors, elles peuvent payer hein, de temps en temps, mais c'est une expression qu'utilisait Franz-Olivier Gisbert il y a bien longtemps, quand il était directeur du journal Figaro Magazine. Il disait « Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du capital ». Et il disait « C'est normal qu'un patron, un propriétaire de médias, décide ce qui est publié dans ce média-là ». Il le disait et il assumait, en tant que directeur du journal, de la rédaction du journal, il assumait que le propriétaire du Figaro Magazine trace d'une certaine façon une certaine ligne éditoriale. Alors, Évidemment, les propriétaires, les milliardaires qui possèdent les médias ne tracent pas la ligne éditoriale, mais sélectionnent ceux qui vont la tracer. Les directeurs, les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, qui eux-mêmes vont avoir ce pouvoir de sélectionner des journalistes, de créer cet agenda dont je parlais tout à l'heure. Puisque, encore une fois, le vrai pouvoir des médias, c'est pas forcément de dire ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser, ce de quoi il faut parler. Alors, concernant là l'affaire de l'extrême droite, on est dans une situation un petit peu particulière où des journalistes essayent à l'intérieur des rédactions de dénoncer une forme de banalisation de l'extrême droite, mais il n'empêche que si on met de côté cet épiphénomène actuel, les journalistes qui travaillent dans les médias sont mais globalement soumis au choix des directions. Et ça, c'est un peu regrettable quand on voit ce qui est fait TV, sur, sans parler de CNews, hein, sur BFMTV ou dans telle ou telle radio, on peut dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui participent à ces médias, qui ne sont pas forcément d'accord avec les bandeaux qui sont mis en bas des écrans, qui ne sont pas forcément d'accord avec le choix des thèmes, etc., mais qui s'en accommodent. Qui s'en accommodent parce que, ben, il faut bien vivre d'une certaine façon. Et c'est plus cette forme d'auto-censure permanente qui est problématique que ce qui s'est passé là ces 15 derniers jours, qui à mon avis n'est pas révélateur en réalité du vrai rapport de force qui existe entre les pouvoirs des médias et des directions des médias et les journalistes qui y travaillent.
Ça veut dire quoi? Alors on t'entend un peu moins bien, Mathias, je ne sais pas si tu t'es déplacé, mais la connexion est de moins bonne qualité d'un coup. Est-ce que ça veut dire que si on prend du recul un petit peu sur ce qui s'est passé là, c'est quoi ce qu'on assiste, c'est un moment un peu exceptionnel et qui pourrait rentrer dans l'ordre rapidement? Enfin, comment, si on prend du recul voilà, un peu là, sur ces dernières semaines, qu'est-ce qui relève d'une habitude, on va dire, de fonctionnement dans les médias et d'une attirance peut-être générale, habituelle, ouais, pour ces questions-là? Et qu'est-ce qui est plus nouveau, selon toi?
Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des journalistes qui se sont mobilisés pour se désolidariser parfois de la direction du journal, notamment sur la question de l'extrême droite. Mais ce qui est pour moi un épiphénomène, c'est que ça fait des mois, des années parfois, que sur de nombreux sujets, ils auraient pu se désolidariser de leurs journaux, de leur direction, pardon, dans la mesure où leur direction a bien propagé des fake news. Par exemple, depuis le 7 octobre, de nombreux médias relaient des informations, des assènes certains points de vue en disant que voilà, la France insoumise est un parti antisémite, c'est le premier parti antisémite, c'est des choses qui sont apparues, qui ont été relayées de nombreuses reprises dans les médias, sans que les journalistes de ces médias-là se mettent en grève, appellent à fermer les ondes de quelques instants, etc. Donc là, c'est parce qu'il y a l'extrême droite qui était au port du pouvoir qu'il y a eu cette mobilisation. Mais elle n'a pas été, elle aurait pu avoir lieu bien avant, et je ne suis pas sûr qu'elle ait lieu plus tard. Voilà.
Simon Barthélémy.
Oui, il y a un contexte qu'il faut rappeler aussi, enfin pour ce qui concerne en tout cas l'audiovisuel public, c'est que au moment de la campagne des européennes, il y a eu un mouvement de grève contre le projet de fusion de France Télévisions, de Radio France et d'autres structures relevant de l'audiovisuel public.
France Média Monde avec TV5 Monde et RFI.
Voilà, suivi au moment de la dissolution et des sondages qui donnaient le Rassemblement national vainqueur, d'une peur panique liée au projet de privatisation de l'audiovisuel que défend le Rassemblement national. Donc, à quel point ça a joué ou pas dans le traitement, dans l'autocensure, dans la crainte de se positionner ou pas, il y a quand même eu en direct des journalistes, je me rappelle papier de France Bleu ou de France 3 dans l'Isère, qui avait reproché à des candidats du RN de venir cracher dans la soupe alors qu'ils étaient bien contents que le service public leur donne aussi la parole. Mais ce qu'on voit quand même qui est encourageant, enfin en tout cas à voir ce que ça va donner, c'est que il y a une forme de libération de la parole sur ce qui s'est passé. Donc il y a un article intéressant de Mediapart là-dessus il y a quelques jours sur notamment des journalistes ou des rubricards de France Info qui protestaient contre les angles qu'on leur demandait de faire sur certains sujets, où eux disaient donc est-ce qu'il faudrait arriver à mettre en avant la vacuité du programme du RN sur l'environnement par exemple, et où on leur disait non, ce serait plus intéressant d'aller voir des personnes issues de l'immigration qui ont voté Rassemblement National, et qui disent qu'ils en ont saisi.